Sorti il y a un an aux éditions Cyrus, le Clash de Benoît Sévrac nous amène au fil des pages à faire des allers-retours entre les Pyrénées et la Grande-Bretagne. Au cours d'une randonnée dans les Pyrénées, Nicolas Cariou raconte à son fils Aurélien son séjour linguistique en Grande-Bretagne au cours de l'été 1978. Un été qui ne sera pas pour Nicolas de tout repos. Ce dernier est accueilli chez les Solly, une famille anglaise avec trois enfants, deux filles, Samantha et Alison, et un fils, Tom, qui est punk, ne laissera pas indifférent Nicolas. Leur amitié va les amener à se confronter tous les deux à des skinheads. Benoît Sévrac, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes l'auteur de ce livre, Le Clash. Est-ce que cette histoire est vraie ?
Non. Toutes les péripéties de Nicolas, tout ce qui arrive à Nicolas est inventé, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'éléments d'autobiographie dans ce roman. C'est la première fois que je vais aussi loin dans l'exploitation de données personnelles ou de vécu personnel. Il se trouve que, voilà, en 77, c'était pas en 78 pour moi, mais en 77, j'ai découvert l'Angleterre. J'avais 11 ans, je venais du Comminges profond et j'ai découvert un petit peu comme si on atterrissait sur Mars. C'était un petit peu l'effet que ça m'a fait. J'ai découvert les punks, les skins, tout ça, quoi.
Quel souvenir vous en gardez de ce séjour linguistique ?
Ah, c'est un peu, je pense, qui ressort du bouquin, c'est un mélange d'effroi et de fascination. Et je crois que mon chemin, enfin, je sais que mon adolescence a été marquée par ça, mes goûts musicaux ont été marqués par ça, mais également un petit côté un peu rebelle et punk à cette époque-là. Ouais.
Alors, on est à un an de l'arrivée de Margaret Thatcher comme Premier ministre. Comment est l'Angleterre de l'époque ?
Oui, c'est une Angleterre un petit peu fatiguée dont le système, dont toute l'industrie, qui était quand même le fer de lance de son économie, est en train de se casser la figure. Son empire colonial est terminé depuis un petit moment déjà, mais on commence vraiment à en ressentir les effets. L'immigration est forte, justement parce que l'empire colonial a aussi généré une immigration vers la Grande-Bretagne. Et le système social s'épuise un petit peu, donc ce sont des années qui vont être compliquées. Les années à venir, les années Thatcher seront douloureuses. Ouais.
La confrontation entre punk et skinhead est-elle propre à l'Angleterre ?
Je crois que ce sont vraiment des mouvements sociaux avant d'être des mouvements musicaux ou de mode. Il y a vraiment eu un ancrage. C'est ce qu'on oublie un petit peu, c'est que les punks étaient des fils d'ouvriers au chômage et qui avaient vu l'ascenseur social s'arrêter, qui avaient vu leurs parents s'échiner, courber les chines et jouer le jeu et se retrouver sur le carreau. Et eux étaient bien décidés à ne pas reproduire ça, ne pas se laisser faire. Mais c'était des fils de prolos. Et les skins, les skins, c'est un peu autre chose. On oublie aussi que les mouvements skins, au tout départ, est un mouvement antiraciste et qu'il y avait des skins noirs. C'était même très proche du mouvement jamaïcain, du reggae, etc. Et puis c'est devenu un mode d'expression plus nationaliste. Et bien sûr, par pure provocation, je pense pas qu'il y ait vraiment eu d'idéologie très marquée de la part des skins, mais les punks avaient une idéologie anarchiste et je crois que les skins, par nationalisme un peu bête et méchant, se sont opposés à eux et ça faisait des bagarres généralisées. Je crois pas qu'on ait vu ça en France. Peut-être autour des Halles à Paris, il y avait
Forum des Halles.
Le Forum des Halles, il y avait ça, mais c'était très restreint. Je pense que c'était un mouvement très parisien et très anti-faf d'un côté, un peu facho de l'autre. Peut-être aux États-Unis, je connais moins l'histoire du punk aux États-Unis, même s'il y en a eu, mais je crois que c'était différent. C'était plus dans la mouvance de Patti Smith, etc. Donc un peu plus intellectuel, peut-être.
Un mot sur les personnages, sur Nicolas Cariou, son fils Aurélien, et sur Tom, qui sont un peu, sont les trois personnages qui reviennent régulièrement au cours de ce livre.
Oui, moi, ce qui m'intéressait, c'était, outre le côté aventure, roman initiatique et l'ancrage en 1978 du récit, il y a quand même ces allers-retours avec le présent et cette relation père-fils. Tom, j'en dirai pas grand chose. Surtout, je pense que ce qui m'importait, mon propos était dans la passation, la transmission, l'éducation, tout simplement, qu'un père peut dispenser à travers son propre exemple, en s'ouvrant à son fils et en lui faisant des révélations, peut-être en étant tout simplement franc. Et je crois vraiment beaucoup à cette vertu de l'éducation qui consiste à ne pas se poser en parangon de comportement ou de morale, mais peut-être montrer qu'on a eu aussi ses failles, ses faiblesses, ses errances, et que ce qui compte, c'est de s'en sortir, quoi. C'est de les remettre en question.
Alors, je te parlais des Pyrénées tout à l'heure, que les gens comprennent bien. Le récit se fait lors d'une randonnée dans les Pyrénées, ça on peut le dire, entre avec le père et le fils. Et donc, le père raconte son séjour linguistique en Grande-Bretagne. Hein. Faut bien préciser.
Oui, c'est ça. Les allers-retours, le présent, le passé, 78 en Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, enfin en 2008 plus exactement, on est dans les Pyrénées, alors que Aurélien, le fils, donc, est sur le point de partir en voyage linguistique le lendemain. Donc, c'est l'occasion pour le père de faire un petit peu le point sur ce qu'il lui a vécu 30 ans plus tôt.
Alors, quelle serait la bande-son de votre livre Le Clash, Benoît Sévrac ?
Ouais, je vais pas être très original. Je dirais Les Clash, évidemment, parce que c'est vraiment pour moi un groupe punk, certes, mais pas que. C'est-à-dire qu'ils ont exploré des tas d'horizons musicaux et ils ont été très politisés et pour moi du bon côté de la chose, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment toujours cet aspect social, antiraciste qui était intéressant. Après les Sex Pistols évidemment aussi parce que j'aime beaucoup cette musique-là, même si je pense que c'était plus commercial, plus aussi un peu plus bourrin entre guillemets, excusez-moi l'expression. Et puis bon, mais puisqu'on a parlé des États-Unis, je parlerai des New York Dolls par exemple qui ont aussi marqué la scène états-unienne.
Alors, c'est un livre qui s'adresse à la base à la jeunesse, mais les adultes peuvent le lire. Hein. Ça rappellera des souvenirs à certains d'entre eux.
Oui, bien sûr. Cette distinction littérature ado, littérature adulte, moi je fais les deux, donc je suis chez deux maisons d'édition différentes pour deux publics différents, mais en fait, si on ne prend pas les ados pour des idiots, les adultes le lisent évidemment, mais de la même façon que... On s'est jamais posé la question de savoir si Cro-Blanc ou L'Appel de la forêt était pour des ados ou pour des adultes. C'est de la grande littérature américaine. Alors, je suis pas en train de dire que c'est de la grande littérature française, mais je veux dire par là que oui, bien sûr, adultes comme ados peuvent le lire.
Alors, Benoît Sévrac, vous êtes écrivain, hein, donc, mais auparavant, vous avez connu plusieurs professions, comme nous allons le voir dans un instant. Et qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture?
Oh, ça, ce serait vraiment, je pense qu'il faudrait une émission, peut-être plusieurs podcasts dédiés à ça. C'est compliqué, ça vient de loin, c'était là tout, j'ai presque envie de dire bébé, parce que je crois qu'avant même de savoir lire et écrire, j'étais déjà un raconteur, ou un conteur, je sais pas comment on peut dire, mais un bavard en tout cas. Et je croyais vraiment beaucoup à mes histoires. Et dès l'âge de 8 ans, je me souviens piquer des crises de colère parce que quand je lisais un roman qui m'avait marqué, je pouvais être très jaloux de l'auteur. Piquer une colère littéralement parce que j'arrivais trop tard, je pouvais pas être celui qui avait raconté cette histoire le premier. À 10-11 ans, je fabriquais des bouquins, je les vendais à mes parents, enfin ça remonte à loin et je crois que c'est étroitement lié avec le désir de raconter des histoires, le plaisir aussi à entendre des histoires.
Vous écrivez des romans pour adultes, pour la jeunesse et des nouvelles, plutôt policières. Hein. Pourquoi ce genre ?
De la même façon, c'est pas vraiment un choix, ça. On croit toujours qu'il y a une espèce de... Oui, de choix éditorial, en fait, ça s'impose. C'est-à-dire que le premier roman que j'ai écrit, il s'est trouvé que c'était un roman noir. Alors là aussi, on pourrait peut-être pinailler un petit peu sur les termes. Moi, je me sens plus au romancier noir, c'est-à-dire auteur de roman noir, qu'auteur de roman policier. C'est-à-dire que dans le roman, ce qu'on entend par roman policier, c'est souvent le roman d'enquête, avec bon, quand c'est très bien fichu, c'est super. Mais moi, j'excelle pas vraiment dans ce genre-là. L'enquête est au centre du roman. L'enquêteur est le personnage principal, voire même le point de vue. Moi, je suis plus dans le roman noir où on s'intéresse davantage aux motivations psychologiques des personnages, notamment du criminel, au réalisme sociologique des personnages. Donc, Le Clash, par exemple, il n'y a pas de policier. Enfin, si, il y a des policiers à un moment donné, mais le roman n'est pas bâti sur une enquête policière. Donc, pour moi, c'est du roman noir.
Vous avez reçu de nombreux prix ?
Oui. C'est vrai. Les prix sont. Je veux pas faire le blasé parce que les prix sont très importants effectivement pour la carrière d'un roman, mais la carrière d'un romancier aussi. Il y a peu de moyens à part la presse et encore que la presse est peut-être moins prescriptive que les prix. Il y a peu de moyens pour sortir du lot un petit peu. Il faut savoir qu'il y a énormément de productions chaque année en France de romans français et un des moyens de sortir du lot, de se faire remarquer, ce sont les prix. Oui, c'est vrai. vrai que mes romans ont souvent été primés.
Et certains de vos livres ont été traduits aux États-Unis et adaptés au théâtre.
Un roman a été traduit aux États-Unis, effectivement, mon tout premier, et deux romans ados ont été adaptés au théâtre aussi. Ouais, c'est très émouvant de voir quelqu'un s'emparer de votre travail et le réinterpréter. Moi, j'aime beaucoup ça, ouais.
On a pu voir à la télévision des courts-métrages dont vous avez écrit le scénario qui s'inscrivaient dans une série.
Ah non, vous faites allusion à des documentaires, des films documentaires sur. Alors il y a une fiction dont j'ai coécrit le scénario, effectivement, Caravane. C'était un certain Xavier Francom qui l'avait produite. Ça, c'était une fiction. Il y avait Joël Cantona dans le rôle principal. Moi, à côté de ça, j'ai participé à le scénario, mais l'écriture de la voix off. J'ai écrit la voix off de 3 documentaires Territoire Polar pour France 3 et l'INA qui étaient sur les auteurs de polar en région. Donc il y avait Normandie, Midi-Pyrénées à l'époque, ça s'appelait encore Midi-Pyrénées, et Corse. Une belle expérience de tournage aussi. Et j'étais acteur également parce que je jouais mon propre rôle, celui d'un auteur qui va à la rencontre des auteurs et qui de ses collègues quoi en fait et qui les interroge sur leur pratique d'écrivain en région.
Vos autrices et auteurs favoris?
Oula, non, je peux pas. Non, d'abord parce que c'est le privilège de l'âge, c'est que j'en ai pas un ou 10 ou j'en ai 200. Et je vais pas nommer parce que si je commence à nommer des gens vivants, je vais en oublier et je vais offenser. Bon, par exemple, mon dernier roman, vraiment, j'ai pas été déçu parce qu'il y a pas grand chose à jeter chez lui, même voire rien. C'était L'Enragé de Sorge Chalandon. Et voilà, grand pour moi, grand roman, grand écrivain.
Qui vient de sortir il y a quelques semaines, quelques mois, un nouveau livre.
Exactement, et alors pour le coup, lui il est vivant, mais je n'oublie pas les autres. J'ai lu beaucoup de choses merveilleuses cette année, notamment dans les Grands Prix, Goncourt et Médicis.
Alors, Benoît Sévrac, vous avez été tour à tour guitariste-chanteur dans un groupe punk, comédien amateur, travailleur agricole saisonnier, gardien de brebis sur le Larzac, restaurateur de monuments funéraires, vendeur de produits régionaux de luxe et de chambres meublées pour clients japonais, professeur de judo, photographe dans l'armée de l'air, serveur dans un restaurant italien en Angleterre, dégusteur de vin, conseiller municipal, président d'association périscolaire, clarinettiste dans un big band de jazz, puis cofondateur d'une fanfare rock latino-jazz, membre cofondateur des Mollards, association internationale des motards du polar qui compte plus de 20 membres représentant 3 continents. Alors au hasard de toutes ces professions et activités, dégustateur de vin, je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Un mot
sur... Oui, c'est un peu une liste à la Prévert là que vous faites. C'est vrai que si on... Bon, ça c'est ma biographie officielle et c'est vrai que si on se retourne tous, encore une fois, privilège de l'âge et qu'on regarde ce qu'on a fait dans sa vie, on s'aperçoit qu'on n'a pas eu... La vie n'est pas monolithique, heureusement. Oui, j'ai eu pas mal de petits boulots aussi parmi ceux-là. Il y en a quand même pas mal qui ont été des petits boulots. Après, j'ai eu un boulot plus longtemps et plus sérieusement, on va dire. C'était celui d'enseignant. J'ai été prof d'anglais à l'école vétérinaire pendant...
À Toulouse
pendant très longtemps. Bah, aussi au DNO, donc au Diplôme National d'Œnologie. Jamais très loin du vin. Oui, dégustateur. C'est-à-dire que j'ai appris la dégustation. Je suis pas œnologue, hein. Faut pas confondre. Je suis dégustateur agréé. J'ai participé à plusieurs panels et jurys. Mais c'est-à-dire qu'en gros, j'ai été formé à la dégustation par... À l'époque, c'était en Alsace, au comité interprofessionnel des vins d'Alsace. Et je suis agréé pour déguster dans les dégustations d'agrément de l'AOC, quoi. Voilà. Donc ça, évidemment, ça va avec la modération. Quand on apprend à déguster le vin, c'est pour le respecter. Disons que maintenant, je suis beaucoup moins dans ce milieu-là. C'est quelque chose qui se perd aussi beaucoup, là, très rapidement, un peu comme une langue étrangère. Il y a beaucoup de choses qui font que aujourd'hui, je déguste, je pense, de façon moins aiguë ou moins affûtée qu'à une époque, mais je reste un dégustateur averti, quoi, un amateur averti.
Ah, vous continuez l'écriture ?
Bien sûr, oui, ça c'est mon métier. Ouais.
Et votre prochain livre est prévu pour janvier 2027, c'est-à-dire dans un an ?
Oui.
Pour adultes, pour adolescents ?
Alors, ce sera un roman pour adultes, qui sera un roman noir également, policier aussi, parce qu'il y a une enquête policière, historique, parce que ça se passera à Toulouse en 1921, et pour ceux qui connaissent un petit peu mes débuts, ce sera une suite... on dirait un séquel aujourd'hui, de Rendez-vous au 10 avril, qui est mon deuxième roman adulte qui avait paru à l'époque chez TME à Toulouse et puis qui a été repris par Pocket à une époque, qui est en fin d'exploitation aujourd'hui, mais qui sera repris chez 10-18 en même temps que sortira Leur Corps Glorieux. Donc voilà, je vous révèle le titre, Leur Corps Glorieux, qui sortira aux éditions Robert Laffont en 2027, en janvier, effectivement.
Alors, il y a un an, était sorti Le Clash, et vous aviez sorti aussi un autre livre, je crois, à la même époque, il y a deux ans.
En littérature adulte, il y a eu peu de temps avant Le Clash, effectivement, Le Bruit de nos pas perdus, aux éditions de la Manufacture de Livres, qui a été repris chez 10-18. Maintenant, on le trouve en poche chez 10-18 et qui, lui, se passe au SRPJ de Versailles. D'ailleurs, je vais très prochainement faire un petit stage d'observation à la PJ, à la brigade criminelle, pendant une semaine avec la brigade criminelle du SRPJ de Versailles, qu'ils ont lu... notamment son directeur, le commissaire Le Floch, qui a lu mon bouquin, deux bouquins qui dont le territoire est Versailles et dont le décor et les policiers enquêteurs sont de la crime de Versailles. Ça l'a interpellé, on s'est contacté et il m'invite à le rejoindre pendant une semaine.
Je rappelle, Le Clash, il est sorti il y a un an, mais bon, vous le procurez aux éditions Syros, Le Clash de Benoît Sévrac. Benoît Sévrac, merci.
Merci à vous.
Et donc dans un an, alors, pour la sortie du prochain.
Oui, puis surtout achetez vos romans ou vos bouquins dans des librairies indépendantes. Il y en a une très belle à Saint-Gaudens.
Merci Benoît Sévrac.
Merci à vous.